Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Simple et Cité, le podcast pour une vie plus simple et sereine dans le monde moderne. Il y a quelques semaines, j'ai été abordée par un journaliste de télévision qui préparait un dossier sur le minimalisme. Il cherchait, je cite, « un ou une minimaliste confirmée » pour comparer avec la minimaliste débutante qu'il avait déjà trouvée pour son émission. Comme je le fais à chaque fois que je suis abordée par la presse, j'ai demandé une précision sur son angle et ses attentes afin de voir si je pouvais lui apporter la valeur qu'il attendait avant d'aller plus loin. Inutile de perdre le temps de tout le monde si ça ne correspond pas à ce qu'il cherche. Et j'ai bien fait. Ce qu'il attendait pour son reportage, c'était de filmer l'appartement d'un minimaliste confirmé, c'était de voir à quoi ressemblait la maison de quelqu'un qui pratique le minimalisme depuis longtemps. En gros, il s'intéressait à l'apparence que prenait le minimalisme dans la vie d'une personne qui le pratique. Il s'intéressait à l'apparat. Alors j'ai aucun problème personnel avec son angle de reportage, hein, c'est lui le journaliste et il fait bien le sujet qu'il veut. C'est son choix. En revanche, moi, en tant qu'écrivaine et créatrice de contenu qui parle de minimalisme, je ne souhaite pas promouvoir le minimalisme d'apparat. Je ne souhaite pas promouvoir l'apparence que revêt la vie d'un minimaliste. Ce que je souhaite mettre en avant, moi, c'est l'être. Ce qui change dans la tête d'un minimaliste confirmé, entre guillemets, plutôt que dans son appartement. Et j'ai pris conscience après cet échange que beaucoup de contenu autour du minimalisme, surtout dès qu'on entre dans le domaine du grand public, reste superficiel et centré sur l'apparence du minimalisme, sans vraiment aborder la question de l'être. Du coup, je me suis dit que ce serait intéressant que j'aborde aujourd'hui cette question. Quelle est la différence entre l'être et l'apparat du minimalisme ? Aujourd'hui, nous vivons dans une société qui est de plus en plus portée sur l'apparence. J'ai déjà abordé la question de la société de consommation et comment le consumérisme s'attache à nous identifier aux objets que nous achetons. Si je veux être cool, j'achète le même café que George Clooney. Si je suis un connaisseur, j'achète cette marque-là. Si je suis un bon parent de famille, j'achète ces céréales-là ou cette voiture, cette place-là. Depuis l'époque d'Edward Bernays, qui était le neveu de Freud, c'est le premier qui a associé les objets à des besoins non matériels, comme le besoin d'amour, d'appartenance, de reconnaissance, etc. Et donc depuis son époque, bon, c'est quand même le gars qui a inventé mon métier, hein. C'est le gars qui a inventé les relations publiques et le marketing moderne. Et donc depuis son époque, le principe de la publicité par exemple, c'est de créer des associations entre une marque ou un produit avec des valeurs, des besoins ou des envies non matérielles que l'on peut avoir en tant qu'être humain. Donc en gros, associer du matériel avec des besoins ou des envies non matérielles pour nous pousser à acheter l'objet pour des raisons autres que ce qu'il nous apporte vraiment dans notre vie, en gros, hein, pour nous penser, en d'autres termes, pour nous pousser à consommer ce dont nous n'avons pas besoin. Et ça, c'est l'ère du « je suis ce que j'achète ». Montrez-moi ce que vous achetez et je saurai qui vous êtes, ou en tout cas qui vous avez envie d'être. Mais récemment, le mouvement va encore plus loin, surtout avec l'avènement de tout ce qui est services, abonnements, numérique, dématérialisation, réseaux sociaux, etc. Nous passons d'une société de l'avoir pur, de l'accumulation de matériel chez soi, à une société de l'apparence. Finalement, posséder toute une collection de DVD pour s'identifier comme un connaisseur de films n'est plus tellement pertinent. La collection se trouve maintenant sur des réseaux comme Sens Critique pour le cinéma ou Goodreads pour les livres, tandis que nous payons des abonnements à des sites d'accès aux films, à la musique, etc. On n'a plus besoin de les posséder pour montrer que nous sommes connaisseurs. Nous avons juste besoin de donner l'apparence d'être des connaisseurs par les collections en ligne qu'on montre aux autres. Alors, je dis pas que c'est une mauvaise chose en soi. C'est-à-dire que, personnellement, je préfère largement payer un abonnement Netflix plutôt que de m'encombrer la vie avec une bibliothèque remplie de DVD. Ce que je dis, c'est que c'est le signe d'une évolution, de l'avoir pur, de la possession de l'objet qui nous identifie, vers une société de l'apparence. C'est l'idée de l'objet qui devient plus importante que l'objet lui-même, finalement. Et à travers les réseaux sociaux et notre identité en ligne, on donne l'apparence de notre identité par toutes ces collections, par toute cette image que l'on renvoie. La personne classe, le connaisseur de bons films, etc., etc. Et du coup, lorsque le journaliste demande à visiter l'appartement d'un « minimaliste confirmé », entre guillemets, sans s'intéresser à ce que pense le minimaliste en question ou sa vision du monde, il s'intéresse à l'apparat du minimalisme. À quoi ressemble la collection d'objets d'un minimaliste confirmé ? Quels meubles achètent-ils? Quels sont les objets qui ont résisté à cette sélection drastique que l'on impute au minimalisme? Dans le cas d'une visite d'appartement, on parle bien des collections physiques et pas numériques, mais ça reste de l'apparence. Quelle est l'apparence d'un minimaliste confirmé? Par contre, l'évolution de son rapport à l'objet, de qu'est-ce qui est son essentiel maintenant, que ce n'est plus le matériel en fait qui est essentiel, ça, ce n'est pas du tout mis en avant. Alors pourquoi la société de consommation se focalise-t-elle sur l'apparence plutôt que sur l'être? Parce que l'apparence, ça se vend. Après avoir montré le bel appartement épuré du minimaliste confirmé, on peut promettre d'acheter ce mode de vie minimaliste, en adoptant la même apparence. Les mêmes marques au design épuré, les mêmes plans sur mur blanc, les mêmes plateaux en bois de chez Muji, les mêmes vêtements éthiques et chics, etc., etc. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous informer que Simplicité est un podcast libre d'accès, que je prends le temps de produire sur mon propre temps et mes deniers personnels. Vous pouvez maintenant devenir coproducteur ou coproductrice de l'émission pour le prix d'un café sur la plateforme Patreon en allant sur patreon.com/floriteller. Mon but est de montrer qu'il est possible de maintenir une culture sans publicité dans le monde moderne. Si vous n'avez pas la possibilité de me soutenir financièrement, ce que je comprends tout à fait, vous pouvez m'aider en recommandant le podcast à vos proches et sur les réseaux sociaux, ou encore en mettant une note sur iTunes. Merci à toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait. Le deuxième point que j'ai envie d'aborder avec vous sur le sujet, c'est que l'être ne s'achète pas. Alors que le minimalisme, défini par le fait qu'on passe de l'avoir à l'être, je ne suis plus ce que j'achète, je suis ce qui est essentiel pour moi, mes valeurs, mes aspirations profondes, mes priorités, etc., mais l'être ne s'achète pas. On peut éventuellement vendre un livre sur l'état d'esprit minimaliste, voire des services de coaching, même si aujourd'hui les services de coaching se concentrent plutôt sur le désencombrement matériel. Mais c'est à peu près tout finalement. Il n'y a pas de profit à se faire sur un changement d'état d'esprit, sur une introspection pour se renouer avec ce qui nous est essentiel. Et pourtant, je suis personnellement convaincue que le véritable bénéfice du minimalisme n'est pas d'avoir une maison épurée, mais de se retrouver en fait, de renouer avec ce qui nous est vraiment essentiel. Aujourd'hui, si je devais me qualifier de minimaliste confirmé, je pense que mon appartement ressemble plus ou moins à celui de n'importe quel couple de trentenaires urbains sans enfants. Il reflète nos goûts, nos voyages, notre héritage familial et notre style de vie. Finalement, notre appartement n'est pas très encombré, mais il n'est pas particulièrement épuré non plus. Et je pense que, en rentrant dans mon appartement, ça m'étonnerait que vous vous disiez « Ah bah alors, eux, c'est des minimalistes, hein, là je suis clairement chez des minimalistes, je pense pas. » Et c'est pas grave en fait, parce que ce n'est pas ce que je recherche dans le minimalisme. Par contre, ce que m'a apporté la simplicité depuis près de 12 ans que je la pratique, c'est un esprit critique vis-à-vis de la société de consommation. Et vis-à-vis de ses besoins qui ne sont pas les miens. J'ai compris petit à petit que je ne suis pas ce que j'achète. Je ne suis pas l'image que je renvoie non plus. Si quelqu'un entrait chez moi et m'accusait de ne pas être minimaliste parce que mon appartement n'en a pas l'apparence, je ne m'en offusquerais pas, en fait, j'en aurais rien à secouer. Parce que ce que j'ai compris de fondamental avec le minimalisme, c'est que j'ai appris à passer de l'avoir à l'être, de l'apparat à l'être. Ce ne sont ni mes objets, ni mon image qui me définissent. Ce sont mes choix, mes actions, mes valeurs, ce qui m'est essentiel. Maintenant, il peut être nécessaire de passer par l'apparat avant d'arriver à l'être. Donc avant de passer à la mise en pratique, je tenais à vous préciser que ce n'est pas grave de passer par une phase de l'avoir et de l'apparat lorsqu'on commence à simplifier sa vie. Je dirais même que c'est tout à fait normal dans la société moderne qui nous pousse depuis qu'on est petit, en tout cas pour ma génération, à nous définir par ce qu'on achète. Lorsque j'ai commencé ma simplification en 2007, je me souviens que je me suis meublée chez Muji, j'ai tenu un fichier Excel de ma garde-robe pour rester en dessous des 100 pièces, j'ai pris des photos de mes nouveaux produits de beauté éthiques et chic, de ma déco épurée japonisante, etc. pour montrer mon minimalisme par l'apparat. Et honnêtement, j'en ai pas du tout honte, et si vous passez aussi par une phase comme ça, je vous invite à être tout à fait indulgent avec vous-même et à avoir aucune honte à ça, parce que je pense que c'est une phase qui est totalement naturelle. Je pense que quelque part, passer par le minimalisme d'apparat, c'est un moyen de s'approprier la notion de simplicité via ce qu'on nous a toujours appris à faire, c'est-à-dire via nos comportements d'achat et via l'image qu'on renvoie. Mais ça, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est que ce n'est que le début. C'est pas le but final du minimalisme, c'est juste une première phase. Et c'est peut-être ça, finalement, la différence entre le minimalisme débutant et le minimaliste confirmé que recherchait ce journaliste. La différence n'est pas dans la déco de l'appartement, mais dans le fait d'apprendre à se détacher de l'avoir et de l'apparat pour renouer peu à peu avec ce qui nous est essentiel. Alors pour moi, renouer avec ce qui m'était essentiel, c'était la créativité au sens large et l'écriture en particulier. Mes valeurs aussi. Apprendre à renouer avec l'indépendance, l'authenticité et la modération. Quelque part, je pense que c'est grâce à la simplicité que j'ai quitté mon emploi, il y a quelques années, qui ne correspondait pas à mes valeurs, qui ne correspondait pas à la personne que je suis. Parce que finalement, avec le minimalisme, j'ai redécouvert qui je suis et j'ai appris à être moi. Et pour moi, c'est ça le minimalisme de l'être. Pour la mise en pratique du jour, je ne vais pas vous proposer de passer de l'apparat à l'être. C'est un travail qui prend des années et comme toutes les bonnes choses de la nature, il faut laisser le temps au temps. Par contre, ce que je peux vous proposer de faire, c'est de prendre un papier et un stylo et noter votre définition propre du minimalisme ou de la simplicité. Pourquoi simplifiez-vous votre vie ou pourquoi envisagez-vous de le faire ? Que signifie pratiquer le minimalisme pour vous ? Quelle est votre vision d'un minimaliste confirmé ? Qu'est-ce que vous en attendez ? Comment est-ce que vous vous imaginez plus loin sur le chemin de la simplification ? Donc voilà, je vous invite à prendre un papier, un stylo ou alors une application numérique si vous préférez, voire même un dictaphone si vous êtes plutôt oral qu'écrit, et de réfléchir à ces questions-là. Le but de cet exercice, c'est de commencer à prendre du recul par rapport à l'apparence du minimalisme en vous demandant quelle en est la substance pour vous. J'espère que cette mise en pratique vous sera utile. Pour la ressource du jour, j'aimerais vous présenter une chaîne YouTube. Elle est en anglais, hein. Pardon pour les personnes qui ne comprennent pas la langue de Shakespeare, mais je vous invite vraiment à la découvrir si vous le pouvez. C'est la chaîne du réalisateur de films Matt Davella, qui a notamment réalisé le documentaire Minimalism, dispo sur Netflix en France. Et d'ailleurs, ce documentaire-là, si vous ne parlez pas anglais et que vous ne pouvez pas découvrir cette chaîne YouTube, je vous invite au moins à découvrir ce documentaire qui est disponible avec des outils de français, si jamais vous ne parlez pas anglais. Donc sur sa chaîne, Matt Davella parle de simplicité, de minimalisme, mais aussi de créativité, d'habitude et de mener une vie qui vous correspond. Sa chaîne reste sans pub. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il a choisi, comme moi à mon petit niveau, de tester le financement participatif comme une alternative au modèle publicitaire. Sachant qu'il a plus d'un million d'abonnés au moment que j'enregistre ce podcast, hein, donc c'est... Enfin, moi, je trouve ça très chouette et très inspirant, j'adore. Et autre chose, c'est qu'il ne parle quasiment jamais des objets qu'il achète ou de la déco de son appartement. En d'autres termes, je trouve que Matt Davella incarne très bien ce minimalisme de l'être plutôt que de l'apparat. D'autant qu'il semble... En plus de ça, s'épanouir dans son essentiel à lui, qui a l'air d'être la créativité et la réalisation de films. Donc si vous cherchez un petit peu d'inspiration, ou si vous cherchez à mieux comprendre cette notion de minimalisme de l'être, et que vous comprenez l'anglais, je vous invite vivement à découvrir la chaîne YouTube de Matt Davella. C'est tout pour aujourd'hui, merci infiniment d'avoir écouté l'émission jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu et que vous y puiserez des idées pour votre approche personnelle du minimalisme. Vous retrouverez un récap des sujets abordés ainsi que les ressources mentionnées dans les notes de l'émission sur simple-cite.com/022. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur le site ou me contacter sur les réseaux sociaux, principalement Instagram, @floriteller. En attendant, je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine !